France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Homme, votre lumière est faite avec de l'ombre, écrivait-il. La lumière et l'ombre, la lumière et les ténèbres sont partout, on le sait, dans l'œuvre de Victor Hugo, dans sa poésie, dans ses romans, comme dans ses dessins. Beaucoup de grands esprits, du genre de ceux à qui on n'a fait pas, ont pu longtemps voir là, comme dans les innombrables antithèses dont sont parsemés ces textes, le signe d'un esprit un peu lourd et manichéen. Le temps et l'acuité du regard de lecteurs plus attentifs auront su montrer que chez Hugo, tout est plus compliqué, plus imbriqué et plus profond qu'il n'y paraît, et que le chemin le plus direct vers l'enfer n'est pas forcément pavé de mauvaises intentions. D'où vient la lumière et de quoi est faite l'ombre chez Hugo? Qui est le Dieu, qui est le Satan de son œuvre monumentale? C'était au fond les questions que posait en 1979 une série en 5 temps de Philippe Nemo pour L'autre scène ou Les vivants et les dieux. En compagnie d'Yves Gohin, spécialiste de littérature française et de Victor Hugo en particulier, le 4e volet de la série tentait de saisir les rayons de lumière et de progresser dans les ténèbres de ce qui fut le dernier roman d'Hugo, 93. L'autre scène où Les vivants et les dieux, Victor Hugo, Le combat des ténèbres, 4e de 5 épisodes, le contexte historique du roman 93 avec Yves Gohin et les voix de François Perrier et de François Chaumette. Une émission diffusée la première fois le 28 mai 1979 sur France Culture.
Écoutons le début d'un récit. Le bataillon du Bonnet Rouge, en 1793, est en marche dans le bois de la Saudrée, en Bretagne, et il se tient sur ses gardes en traversant ses taillis épais.
On marchait. On allait à l'aventure avec inquiétude et en craignant de trouver ce qu'on cherchait. De temps en temps, on rencontrait des traces de campement, des places brûlées, des herbes foulées, des bâtons en croix, des branches sanglantes. Là, on avait fait la soupe. Là, on avait dit la messe. Là, on avait pansé des blessés. Mais ceux qui avaient passé avaient disparu. Où étaient-ils? Bien loin, peut-être. Peut-être là, tout près, cachés. Les spingoles au poing. Le bois semblait désert. Le bataillon redoublait de prudence. Solitude, donc, défiance. On ne voyait personne, raison de plus pour redouter quelqu'un. On avait affaire à une forêt malfamée. Une embuscade était probable.
Voici donc un récit dans un roman de Victor Hugo, 93, qui raconte la guerre des Chouans contre les armées de la République conventionnelle et les bandes de paysans vendéens et bretons conduites par leurs nobles et leurs prêtres. Mais, quelque haletant que soit ce récit, ce n'est pas lui que nous entendrons ce soir. C'est un certain air dans lequel le génie de Victor Hugo le fait baigner. Mais voici que le bataillon entend un bruit. Tous les soldats s'apprêtent à tirer, mais il apparaît soudain que le bruit a été causé non pas par une embuscade, mais par une femme seule, cachée dans les buissons, avec 3 petits enfants, dont l'un tête au corps au sein. Le sergent interroge la jeune femme, et c'est dans ce dialogue que commencent à se démarquer ténèbres et lumières.
« Qui es-tu, madame ?» La femme le considérait terrifié. Elle était maigre, jeune, pâle en haillons. Elle avait le gros capuchon des paysannes bretonnes et la couverture de laine rattachée au cou avec une ficelle. Elle laissait voir son sein nu avec une indifférence de femelle. Ses pieds sans bas ni souliers saignaient. « C'est une pauvre, » dit le sergent. Et la vivandière reprit de sa voix soldatesque et féminine, douce en dessous. « Comment vous appelez-vous ? La femme murmura dans un bégaiement presque indistinct. Michel Fléchard. Cependant, la vivandière caressait avec sa grosse main la petite tête du nourrisson. « Quel âge a ce môme ? » demanda-t-elle. La mère ne comprit pas. La vivandière insista. « Je vous demande l'âge de ça. »«
Ah, » dit la mère, « 18 mois. »«
C'est vieux, » dit la vivandière, « ça ne doit plus téter. Il faudra me sevrer ça. Nous lui donnerons de la soupe. »
La mère commençait à se rassurer. Les deux petits qui s'étaient réveillés étaient plus curieux qu'effrayés.
Ils admiraient les plumets.
« Ah !» dit la mère, « ils ont bien faim. » Et elle ajouta, « Je n'ai plus de lait. »«
On leur donnera à manger, » cria le sergent, « et à toi aussi. Mais c'est pas tout. Quelles sont tes opinions politiques ?»
La femme regarda le sergent et ne répondit pas.
« Entends-tu ma question ?»
Elle balbutia. « J'ai été mise au couvent toute jeune, mais je me suis mariée. Je suis pas religieuse. Les sœurs m'ont appris à parler français. On a mis le feu au village. Nous nous sommes sauvés si vite que je n'ai pas eu le temps de mettre des souliers.
Je te demande quelles sont tes opinions politiques. »
« Je sais pas ça. »
Le sergent poursuivit. « C'est qu'il y a des espionnes. Ça se fusille, les espionnes. Voyons, parle. Tu n'es pas bohémienne ? Quelle est ta patrie ? »
Le malheur est que la femme ne comprend pas le mot patrie. La douleur est au-delà de la raison. Nous allons donc lire ce soir quelques-unes des plus belles pages de 93, qui est lui-même un des plus beaux romans de Victor Hugo. Nous allons chercher dans le grand art de Victor Hugo les rayons et les ombres, comme il le dit lui-même, qui jaillissent du combat des ténèbres et de la lumière, quand un grand artiste, qui est aussi un grand penseur, médite sur ce combat, et médite sur ce combat sur la scène même de l'histoire, ici, la Révolution française. Mais continuons pour le moment notre dialogue entre le sergent Radoub et la pauvre femme perdue. C'est toute l'histoire de la Révolution que nous allons y voir prendre visage.
Le sergent répéta, « Quelle est ta patrie ?»«
Je ne sais pas, » dit-elle.
« Comment, tu ne sais pas quel est ton pays ?»«
Ah, mon pays, si fait. »«
Eh bien, quel est ton pays ?»
La femme répondit, « C'est la métairie de Ciscoignard, dans la paroisse d'Azé. » Ce fut le tour du sergent d'être stupéfait. Il demeura un moment pensif, puis il reprit.
« Tu dis ?
Ciscoignard ?
C'est pas une patrie, ça !
C'est mon pays. » Et la femme, après un instant de réflexion, ajouta. « Je comprends, monsieur, vous êtes de France. Moi, je suis de Bretagne. »
« Eh bien ! »
« C'est pas le même pays. »
« Mais c'est la même patrie !» cria le sergent.
La femme se borna à répondre. « Je suis de Ciscoignard. »
« Va pour Ciscoignard, » reprit le sergent. « C'est de là qu'est ta famille ?»«
Oui. »«
Que fait-elle ? » ?»«
Elle est toute morte. Je n'ai plus personne. »
Cependant, le sergent insistait. « Parle donc, madame. As-tu une maison ?»«
J'en avais une. »
« Où ça ?»«
À Azé. »
« Pourquoi n'es-tu pas dans ta maison ?»«
Parce qu'on l'a brûlée. » »«
Qui ça ?»«
Je sais pas. Une bataille. » »«
D'où viens-tu ?»
« De là ?»«
Où vas-tu ? » ?»«
Je sais pas. » »«
Arrive au fait, qui es-tu ? » ?»«
Je sais pas. » »«
Tu sais pas qui tu es ? » ?»«
Nous sommes des gens qui nous sauvons. » »«
De quel parti es-tu ? » ?»«
Je sais pas. » »«
Es-tu des bleus ? Es-tu des blancs ? Avec qui es-tu ? » ?»«
Je suis avec mes enfants. » Il y eut une pause, la vivandière dit.
« Moi, j'ai pas eu d'enfants.
J'ai pas eu le temps. »
Le sergent recommença. « Mais tes parents, voyons madame, mets-nous au fait de tes parents. Moi je m'appelle Radoub. Je suis sergent. Je suis de la rue du Cherche-Midi. Mon père et ma mère en étaient. Je peux parler de mes parents. Parle-nous des tiens. Dis-nous ce que c'était que tes parents. »
« C'était les Fléchards, voilà tout. »
« Oui, les Fléchards sont les Fléchards, comme les Radoub sont les Radoub. Mais on a un état. Quel était l'état de tes parents ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qui fléchardait, tes fléchards ?
C'était des laboureurs. Mon père était infirme et ne pouvait travailler à cause qu'il avait reçu des coups de bâton que le Seigneur, son Seigneur, notre Seigneur,
lui avait fait donner, ce qui était une bonté parce que mon père avait pris un lapin, pour le fait de quoi on était jugé à mort. Mais le Seigneur avait fait grâce et avait dit « Donnez-lui seulement 100 coups de bâton. » Et mon père était demeuré estropié. Et puis, mon grand-père était huguenot. Monsieur le curé l'a fait envoyer aux galères. J'étais toute petite. Et puis, le père de mon mari était un faux-saunier. Le roi l'a fait pendre. Et ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Ces jours-ci, il se battait. Pour qui? Pour le roi. Et puis, dame, pour son seigneur. Et puis, dame, pour monsieur le curé. Sacré mille noms de brutes, cria un grenadier.
La vivandière, c'est-à-dire la femme qui accompagne le bataillon pour préparer la cuisine, prend maintenant fait et cause pour Michel Fléchard. Elle fait jouer les trois petits sur ses genoux, et ce qui devait arriver arrive. Elle découvre, et tout le bataillon avec, que la famille Fléchard et les sans-culottes qui composent le bataillon appartiennent en fait au même peuple pauvre et travailleur, opprimé de la même façon par les nobles, et que c'est donc un paradoxe cruel qu'ils doivent se faire parisiens et vendéens la guerre jusqu'à la mort. Puis le bataillon, qu'on imagine déployé en cercle autour de la femme et de Radoub, apprend que le mari de Michel Fléchard a été tué, elle ne sait pas par qui, par un coup de fusil, dit-elle, puis qu'elle erre sans rien comprendre depuis des jours et des jours avec ses trois enfants, sans rien manger, en dormant dans des trous.
Elle regardait la terre, résignée, ayant dans les yeux l'étonnement des catastrophes. Les soldats silencieux faisaient cercle autour de cette misère. Une veuve, trois orphelins, la fuite, l'abandon, la solitude, la guerre grondant tout autour de l'horizon, la faim, la soif, pas d'autre nourriture que l'herbe, pas d'autre toit que le ciel. Le sergent s'approcha de la femme et fixa ses yeux sur l'enfant qui tétait. La petite quitta le sein, tourna doucement la tête, regarda avec ses belles prunelles bleues l'effrayante face velue, hérissée et fauve qui se penchait sur elle, et se mit à sourire. Le sergent se redressa, et l'on vit une grosse larme rouler sur sa joue et s'arrêter au bout de sa moustache comme une perle. Il éleva la voix. « Camarades, de tout ça, je conclus que le bataillon va devenir père. Est-ce convenu? Nous adoptons ces trois enfants-là. Vive la République !» crièrent les grenadiers. « C'est dit !» fit le sergent. Et il étendit les deux mains au-dessus de la mère et des enfants. « Voilà, dit-il, les enfants du bataillon du bonnet rouge !» La vivandière sauta de joie. « Trois têtes dans un bonnet » cria-t-elle. Puis elle éclata en sanglots, embrassa éperdument la pauvre veuve et lui dit « Comme la petite a déjà l'air gamine !»« Vive la République !» répétèrent les soldats. Et le sergent dit à la mère « Venez, citoyenne !»
Yves Gohin, maître assistant à Paris 7.
D'emblée, il y a une comparaison facile qui s'impose, mais comme on souhaiterait la voir bien aboutir, c'est avec le cinéma, je trouve. Et il y a là, en noir et blanc, presque, on le souhaiterait, avec quelques taches de couleur, du bleu et du rouge notamment, et du vert. Il y a là une action éminemment cinématographique, et d'abord par la portée, la présence, l'intensité des images dans le silence de leur déroulement. Ces images qui ensuite débouchent sur un dialogue. Dès le début, dès la première phrase, l'histoire, avec un grand H, devient histoire avec un petit capital. Dans le présent, je dirais, dans ce présent d'une année qui n'a pas cessé d'obséder l'esprit de Hugo. Et dans ce présent d'une action où, étrangement, des Parisiens se trouvent dans un bois de Bretagne. Ce sont des conscrits, ce sont des Parisiens qu'on vient de recruter pour cette guerre et, enfin, beaucoup de précisions historiques de Hugo sont exactes, n'est-ce pas, dans ce roman, qui n'est pas une histoire romancée, en un sens, pas du tout. Et c'est bien le Santerre, le père du faubourg, je crois, comme on l'appelait, qui a rassemblé des troupes à Paris et à l'intérieur de chaque section parisienne et était envoyé par la Convention en mai 93 comme général en Vendée. Il y a une héroïne qu'on connaît bien, c'est une mère, uniquement une mère. Et
mais la sexualité est quand même là dans ce sein qu'elle tend à son enfant.
Oh, certainement, oui. Et dans la vie physique qui l'unit à ses enfants, et d'autre part...
Dans l'animalité.
C'est ça, cette animalité, mais d'un autre côté, la louve est femelle et la femelle est femme. Enfin, chez Hugo, ça se renverse.
Il y a aussi un pays.
Oui, il y a le pays. Il y a le pays qui s'oppose à la patrie. Il y a cette Bretagne si présente aussi pour nous. Enfin, je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. C'est l'actualité de ce roman. C'est un peu une position apparemment facile d'essayer de stimuler l'attention du lecteur pour un roman qui est écrit il y a un siècle et qui se rapporte à des événements d'il y a deux siècles, de dire c'est d'une actualité criante, mais enfin c'est comme ça, je ne force pas les choses, et je m'en voudrais de les taire, même, puisque nous voilà en Bretagne, nous voilà dans une Bretagne qui s'oppose au pouvoir central, républicain et centralisateur, enfin, de la Convention.
Oui, c'est la guerre de Vendée, mais c'est la guerre de Vendée en Bretagne.
Oui, pour Hugo, il est certain que la Vendée s'élargit beaucoup, et d'ailleurs, il ne parle pas de la guerre de Vendée proprement dite, il parle en fait de la chouannerie, c'est-à-dire ce qui s'est passé en effet dans une Bretagne et surtout dans les confins de la Bretagne, dans la Mayenne, autour de Rennes, de Laval et pour finir dans la forêt de Fougères.
Oui, un beau pays tel qu'on s'imagine qu'il était avant la Révolution, sans béton ni route, avec son bocage et ses taillis, ses chemins et ses églises, pays hélas ici rougi par le sang. Mais puisque nous sommes là ce soir pour écouter de la poésie, et pour écouter la poésie qu'il y a en tout beau langage, même lorsqu'il ne se veut pas spécialement poétique, écoutons Victor Hugo parler du pays breton, de ses bois et de ses forêts. Mais la poésie, c'est cela qui est intéressant, n'est pas seulement dans les lieux, elle n'est même pas tellement dans les lieux, elle est dans les noms des lieux. Victor Hugo, cerveau prodigieux sans doute, se plaît souvent à écrire des suites de noms propres, de lieux ou de personnes, qu'il qualifie chaque fois d'un trait marquant. Ici même, dans 93, il va décrire un par un tous les conventionnels en racontant à propos de chacun d'entre eux une histoire. On va donc voir ici l'histoire se déployer dans la Bretagne historique, certes, celle des bois et des forêts, mais en fait, à cause de ce statut singulier et provoquant des noms, dans une géographie qu'il n'est pas excessive de dire visionnaire plutôt que terrestre et topographique. Tout à l'heure, nous comprendrons mieux ce que cela signifie pour l'histoire et pour le débat philosophique dont témoigne le roman 93.
Il n'y avait pas que les forêts, il y avait les bois. De même qu'au-dessous des cités, il y a les villages, au-dessous des forêts, il y avait les broussailles. Les forêts se reliaient entre elles par le dédale, partout et par des bois. Les anciens châteaux qui étaient des forteresses, les hameaux qui étaient des camps, les fermes qui étaient des enclos faits d'embûches et de pièges, les métairies ravinées de fossés et palissées d'arbres, étaient les mailles de ce filet où se prirent les armées républicaines. Cet ensemble était ce qu'on appelait le bocage. Il y avait le bois de Misnon, au centre duquel était un étang, et qui était à Jean Chouan. Il y avait le bois de Gênes, qui était à Taillefer. Il y avait le bois de la Huisserie, qui était à Gouges-le-Bruant. Le bois de la Charnie, qui était à Courtillé-le-Bâtard, dit l'apôtre Saint-Paul, chef du camp de la Vache Noire. Le bois de Burgot, qui était à cet énigmatique monsieur Jacques, réservé à une femme mystérieuse dans le souterrain de Juvardeille. Il y avait le bois de Charot, où Pimou, ses petits princes, attaqués par la garnison de Châteauneuf, allaient prendre à bras-le-corps dans les rangs républicains des grenadiers qu'ils rapportaient prisonniers. Le bois de la Heureuserie, témoin de la déroute du poste de Longuefaye. Le bois de l'Aune, d'où l'on épiait la route entre Rennes et Laval. Le bois de la Gravelle, qu'un prince de la Trémoille avait gagné en jouant à la boule. le bois de l'Orge dans les côtes du Nord où Charles de Boissardy régna après Bernard de Villeneuve, le bois de Bagnard près de Fontenay où Lescure offrit le combat à Chalbos qui, étant 1-5, l'accepta, le bois de la Durondaye que se disputèrent jadis Alain le Redru et Hérispoux, fils de Charles le Chauve, le bois de Croqueloup sur la lisière de cette lande où Coquereau tondait les prisonniers, le bois de la Croix-Bataille qui assista aux insultes homériques de Jambes d'Argent à Morière et de Morière à Jambes d'Argent, le bois de la Saudraye que nous avons vu fouiller par un bataillon de Paris, bien d'autres encore.
Eh bien, c'est dans un de ces bois, le bois de la Saudraye, au nom mystérieux, ou plutôt au nom que l'art plein de pensées de Hugo a rempli de mystères, que le bataillon du Bonnet Rouge a rencontré Michel Fléchard, et nous revenons avec lui et elle à l'histoire.
La femme ne comprend rien à ce qui lui est arrivé. Quand on lui demande quelles sont ses opinions politiques, elle répond qu'elle n'a pas eu le temps de mettre des souliers.
Elle ne connaît pas le mot politique.
Opinion, elle non plus. Elle ne sait pas ce que ça veut dire, opinion. Quand on lui demande si elle a une patrie, elle ne comprend pas. Elle a un pays et son pays, c'est une métairie. Ou une paroisse, à la rigueur. Si on lui demande qui a brûlé sa maison, elle ne sait pas. C'est une bataille. Si on lui demande qui a tué son mari, c'est un coup de fusil. Elle n'est pas dans cette affaire d'homme. Et je l'entends à la fois au sens de homme homo et de homme vir. Dans cette affaire d'homme, elle n'a pas sa place. Cependant, alors, elle se trouve chargée d'enfants qui ont faim, elle ne peut plus les nourrir. Ces républicains qui arrivent là, sans doute pas la fleur au fusil, mais enfin, le bonnet rouge
avec le
sur la tête.
Avec le sentiment de délivrer le peuple.
D'apporter, c'est cela. Sont ahuris par son ignorance, sont scandalisés, même, on l'entend, un grenadier, je crois, rugir d'indignation devant ce scandale pour la raison de cette femme qui trouve normal qu'autour d'elle, on se batte pour le roi, le seigneur et le curé, alors que sa famille n'a cessé d'être victime du roi, du seigneur et du curé. Mais elle les met en présence d'une vie qui est en dehors, justement, de ses opinions, et où la vivandière la comprend. On meurt sans distinction d'opinion, dit-elle. Moi, je verse à boire à tout le monde. Ma foi, oui, au blanc comme au bleu, quoique je sois une bleue. Et alors, le bouleversement ici, la secousse capitale pour le sens du roman, c'est que le régiment va être appelé à devenir père de ses enfants. D'abord parce que ce sont des enfants abandonnés, parce que ce sont des vies qui crient au secours.
Après cette scène où nous avons vu le bataillon recueillir Michel Fléchard et ses enfants, l'action commence. C'est donc un épisode de la chouannerie. Les royalistes ont l'appui de l'Angleterre et c'est précisément des îles anglo-normandes que doit débarquer clandestinement en Bretagne un prince émigré, le marquis de Lantenac, afin d'être le chef que les insurgés attendent et qui enflammera tout le pays. La corvette anglaise qui l'amène est repérée par l'escadre française, mais le marquis s'enfuit à bord d'une simple barque avec un matelot Almalo. Tous deux arrivent à la tombée de la nuit sur la côte bretonne, près du Mont-Saint-Michel. Lantenac congédie le matelot, puis il monte au sommet d'une dune où il médite sur la grande action qu'il est en train de mener.
Le vieillard restait immobile. Il ne pensait pas, à peine songeait-il. Autour de lui, tout était sérénité, assoupissement, confiance, solitude. Il faisait grand jour encore sur la dune, mais presque nuit dans la plaine et tout à fait nuit dans les bois. La lune montait à l'orient. Quelques étoiles piquaient le bleu pâle du zénith. Cet homme, bien que plein de préoccupations violentes, s'abîmait dans l'inexprimable mansuétude de l'infini.
Il sentait monter en lui cette aube obscure, l'espérance. Si le mot « espérance » peut s'appliquer aux attentes de la guerre civile. Pour l'instant, il lui semblait qu'en sortant de cette mer qui venait d'être si inexorable, et en touchant la terre, tout danger s'était évanoui. Personne ne savait son nom, il était seul, perdu pour l'ennemi, sans trace derrière lui. Car la surface de la mer ne garde rien, caché, ignoré, pas même soupçonné. Il sentait on ne sait quel apaisement suprême. Un peu plus, il se serait endormi. Ce qui, pour cet homme en proie au-dedans comme au-dehors à tant de tumulte, donnait un charme étrange à cette heure calme qu'il traversait, c'était, sur la terre comme au ciel, un profond silence. On n'entendait que le vent qui venait de la mer. Mais le vent est une basse continue et cesse presque d'être un bruit tant il devient une habitude. Tout à coup, il se dressa debout. Son attention venait d'être brusquement réveillée. Il considéra l'horizon. Quelque chose donnait à son regard une fixité particulière. Ce qu'il regardait, c'était le clocher de Cormeret qu'il avait devant lui au fond de la plaine. On ne sait quoi d'extraordinaire se passait en effet dans ce clocher. La silhouette de ce clocher se découpait nettement. On voyait la tour surmontée de sa pyramide, et entre la tour et la pyramide, la cage de la cloche, carrée, à jour, sans abat-vent, et ouverte au regard des quatre côtés, ce qui est la mode des clochers bretons. Or, cette cage apparaissait alternativement ouverte et fermée. À intervalles égaux, sa haute fenêtre se dessinait toute blanche, puis toute noire. On voyait le ciel à travers, puis on ne le voyait plus. Il y avait clarté, puis occultation. Et l'ouverture et la fermeture se succédaient d'une seconde à l'autre avec la régularité du marteau sur l'enclume. Le vieillard avait le clocher de Cormeret devant lui à une distance d'environ 2 lieues. Il regarda à sa droite le clocher de Baguère-Piquant, également droit sur l'horizon. La cage de ce clocher s'ouvrait et se fermait comme celle de Cormeret. Il regarda à sa gauche le clocher de Tanis. La cage du clocher de Tanis s'ouvrait et se fermait comme celle de Baguère-Piquant. Il regarda tous les clochers de l'horizon l'un après l'autre. À sa gauche, les clochers de Courtil, de Pressay, de Crolon et de la Croix-Avranchin. À sa droite, les clochers de Raz-sur-Couesnon, de Mordray et d'Épas. En face de lui, le clocher de Pontorson. La cage de tous ces clochers était alternativement noire et blanche. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela signifiait que toutes les cloches étaient en branle. Il fallait, pour apparaître ainsi, qu'elles fussent furieusement secouées. Qu'était-ce donc? Évidemment le tocsin. On sonnait le tocsin, on le sonnait frénétiquement, on le sonnait partout, dans tous les clochers, dans tous les villages. Et l'on n'entendait rien. Cela tenait à la distance qui empêchait les sons d'arriver et au vent de mer qui soufflait du côté opposé et qui emportait tous les bruits de la terre hors de l'horizon. Tous ces clochers forcenés appelant de toutes parts et en même temps ce silence. Rien de plus sinistre. Le vieillard regardait et écoutait. Il n'entendait pas le tocsin. Et il le voyait, voir le tocsin. Sensation étrange. À qui en voulaient ces cloches? Contre qui ce tocsin?
Contre qui ce tocsin, Yves Goin ?
Ça n'est pas clair, et l'indécence du chapitre et du titre du chapitre, il a des oreilles et il n'entendra pas, reprise d'une parole biblique et évangélique que tout le monde connaît. Ce titre signifie aussi quelque chose pour le lecteur. C'est, est-ce que nous qui lisons, nous entendons bien ? Parce que le tocsin lui-même, là, pour qui sonne-t-il, effectivement, pour qui sonne le glas ? Est-ce bien pour Lantenac ? C'est à cause de lui, comme il sera dit plus loin. Mais en fait, il sera dit aussi que ce sont les paysans bretons qui l'ont fait sonner pour se rassembler, parce qu'ils ont appris la venue de Lantenac. En même temps, ça pourrait avertir les Bleus, mais les Bleus aussi ne vont pas entendre ce tocsin. Mais comme il est dit au début de la troisième partie du roman, dans la forêt de Rennes, on entendait le tocsin des paroisses républicaines. Alors, ce n'est peut-être pas les paroisses républicaines qui dominent dans cette région, mais cela a pu être ailleurs.
Le vieillard Lantenac est en haut d'une dune, et qu'est-ce qu'il aperçoit à ce moment-là ? L'ancien monde lui-même, c'est-à-dire tous ces villages avec leurs clochers et leurs paysans.
C'est vrai. Il y a là un charme difficile à dissocier quand même de l'histoire et du sens que Hugo lui donne. C'est tout à fait précis, réaliste. C'est la description même de ce clocher avec leur tour surmontée de la cage de la cloche ouverte aux quatre vents. C'est en effet un peu l'ancien monde, là aussi, qu'on voit, et lui aussi est alternativement noir et blanc, il était lui-même ambivalent. Mais il y a bien peut-être plus profond que ça, quelque chose d'extraordinaire dans ce chapitre, c'est le mot pyramide qui peut-être l'indique, le signal.
Le Mont Saint-Michel, avait dit Hugo trois pages auparavant, est à l'océan ce que Khéops est au désert.
Et juste après, il est question ici, juste après qu'il était parlé de cette pyramide, du clocher de Tanis. Or, Tanis est bien le nom d'un village de la région, tous les noms, quelqu'un qui est allé là-bas les retrouvera, ou qui connaît le pays. Mais Tanis est aussi une ville d'Égypte.
Derrière lui se dressait, dit Hugo, énorme triangle noir, avec sa tiare de cathédrale et sa cuirasse de forteresse, avec ses deux grosses tours du Levant, l'une ronde, l'autre carrée, qui aide la montagne à porter le poids de l'église et du village, le mont Saint-Michel, qui est à l'océan, ce que Khéops est au désert. Nous sommes donc dans ce que les mystiques de l'Iran, je le rappelais tout à l'heure, nomment une géographie visionnaire, ce monde imaginal où, selon Henri Corbin, prennent substance et sens les débats métaphysiques, au lieu que, dans l'histoire simple, toute douleur est toujours non-sens, tout débat toujours absurdité.
Bon, c'est à la fois la Bretagne, et puis en même temps, dans cette Bretagne, on lit autre chose. On lit un passé encore plus lointain, ou plutôt des signes qui viennent de bien plus loin. Je crois que ce qu'on lit, c'est le signe du signe. Je veux dire par là que le clocher, alternativement blanc et noir, c'est vraiment l'hiéroglyphe.
Le vieillard restait immobile. Il ne pensait pas, à peine songeait-il. Autour de lui, tout était sérénité, assoupissement, confiance, solitude. Il faisait grand jour encore sur la dune, mais presque nuit dans la plaine et tout à fait nuit dans les bois. La lune montait à l'orient. Quelques étoiles piquaient le bleu pâle du zénith. Cet homme, bien que plein de préoccupations violentes, s'abîmait dans l'inexprimable mansuétude de l'infini. Il sentait monter en lui cette aube obscure, l'espérance, si le mot espérance peut s'appliquer aux attentes de la guerre civile.
Il s'abîmait. Je me demande de quelle façon il faut l'entendre. Et sans doute on verra qu'il peut communiquer avec cette inexprimable mansuétude, même ce Lantenac.
Il vient de faire fusiller un homme.
Mais oui, il vient de faire fusiller un homme
sur le bateau qu'il conduisait,
appliquant implacablement, comme il l'a toujours fait, la loi d'un ordre féodal. Et l'aube qu'il pressent, c'est l'aube obscure de la guerre civile. Et dans quoi, finalement, se sent-il ? Dans un grand calme, mais dans un grand calme où il est tout près de s'endormir. Il est quand même remarquable, je trouve, que cet apaisement, à mon sens, préfigure sa mort. Et c'est aussi sa mort qui est préfigurée dans cette alternative de blanc et noir.
Oui, mais ce vieillard n'est pas tout silence. Et dans le monde visionnaire de 93, il nous dit quelque chose. Quelques pages auparavant, il a eu avec le paysan pêcheur breton Almalo, qui l'a emmené sur sa barque depuis la haute mer jusqu'au rivage du Couesnon, il a eu un dialogue extraordinaire. Nous allons écouter ce dialogue parce qu'on y perçoit, nonobstant, certes au premier plan, la cruauté de Lantenac, qui traite son paysan avec hauteur. D'ailleurs, il a fait fusiller son frère quelques heures auparavant sur le vaisseau anglais qui les amenait, parce que ce frère avait commis une faute que nous serions tentés, nous, de juger parfaitement bénigne. Eh bien, malgré cela, on aperçoit en filigrane, dans cette conversation martiale de Lantenac et de Almalo, un modèle de relation humaine qui tient de la fixité et du rayonnement d'un blason. Et ceci a sûrement séduit Hugo. C'est la relation du seigneur féodal, non pas exactement avec son paysan, avec son serf, mais avec son paysan dont il est amené par les circonstances à faire un soldat. Et dès lors, ce paysan est revêtu d'une sorte de noblesse, d'un début de noblesse. Il est dit explicitement qu'il pourra être fait, s'il réussit sa mission, chevalier de Saint-Louis. Mais nous sommes dans le monde des visions, qui n'est ni celui de l'action où la violence domine, ni celui de la raison où les contradictions abondent. Dans l'atmosphère visionnaire du livre, l'ancien monde, qui est un monde de ténèbres aux yeux du doctrinaire Hugo, est tout de même revêtu de cette lumière du cérémonial féodal, proche parent, il faut le dire, de la liturgie catholique, à moins que ce soit l'inverse, où se reflète aux yeux de Hugo lui-même un peu de la lumière de l'absolu.
Le vieillard dit: Almalo, nous allons nous séparer. Être deux ne vaut rien, il faut être mille ou seul. Il s'interrompit et tira d'une de ses poches un nœud de soie verte assez pareil à une cocarde, au centre duquel était brodée une fleur de lys en or. Il reprit: Sais-tu lire? Non. C'est bien, un homme qui lit, ça gêne. As-tu bonne mémoire? Oui. C'est bien. Écoute, Almalo. Tu vas prendre à droite et moi à gauche. J'irai du côté de Fougères, toi du côté de Bazouge. Garde ton sac qui te donne l'air d'un paysan. Cache tes armes. Coupe-toi un bâton dans les haies. Rampe dans les seigles qui sont hauts. Glisse-toi derrière les clôtures. Enjambe les échaliers pour aller à travers champs. Laisse à distance les passants. Évite les chemins et les ponts. N'entre pas à Pont-Torso. Ah, tu auras à traverser le Couesnon. Comment le passeras-tu ? À la nage. C'est bien. Et puis, il y a un gué. Sais-tu où il est? Entre Ancet et Vieux-Vielle. C'est bien. Tu es vraiment du pays. Mais la nuit vient. Où mon seigneur couchera-t-il? Je me charge de moi. Et toi, où coucheras-tu? Il y a des émousses. Avant d'être matelot, j'ai été paysan. Jette ton chapeau de marin qui te trahirait. Tu trouveras bien quelque part une carapousse. Oh, un tapa-bord, cela se trouve partout. Le premier pêcheur venu me vendra le sien. C'est bien, maintenant écoute. Tu connais les bois? Tous. De tout le pays? Depuis Noirmoutier jusqu'à Laval. Connais-tu aussi les noms? Je connais les bois, je connais les noms, je connais tout. Tu n'oublieras rien? Rien. C'est bien. À présent, attention. Combien peux-tu faire de lieues par jour? 10, 15, 18, 20, s'il le faut. Il le faudra. Ne perds pas un mot de ce que je vais te dire. Tu iras au bois de Saint-Aubin. Près de Lamballe? Oui. Sur la lisière du ravin qui est entre Saint-Rieul et Plédéliac, il y a un gros châtaignier. Tu t'arrêteras là. Tu ne verras personne. Ce qui n'empêche pas qu'il y aura quelqu'un, je sais. Tu feras l'appel. Sais-tu faire l'appel? Almalo enfla ses joues, se tourna du côté de la mer, et l'on entendit le ouh de la chouette. On eût dit que cela venait des profondeurs nocturnes. C'était ressemblant et sinistre. Bien, dit le vieillard, tu en es.
Il vient de lui exposer tout un plan de marche, d'itinéraire à travers le pays breton, à travers le pays chouan, pour contacter tous les chefs de la rébellion. Et certes, on voit qu'il peut être
l'homme d'une parole efficace. Il ne s'agit pas du tout de voir en Lantenac un vieillard absurde, comment dirais-je, une espèce de fantôme impuissant dont la révolution aura facilement raison. Pas du tout. C'est un redoutable adversaire, n'est-ce pas ? Il a en lui toute l'énergie de la noblesse. À côté de ça, c'est un monologue impérieux. Tu feras cela, c'est le chef. Et de la même façon, avant, par un monologue non moins écrasant, en un sens, pour toute volonté personnelle de ce paysan mené par son seigneur, de la même façon, il l'avait convaincu que il ne pouvait pas, Almalo, ce frère du marin fusillé sur l'ordre de Lantenac, il ne pouvait pas se venger sur Lantenac, parce que ça aurait été mettre en péril l'âme de Lantenac qui serait mort sans confession, ça aurait été mettre en péril l'entreprise vendéenne, donc le salut de la religion, le roi et Dieu, ou Dieu et le roi.
Il tendit à Almalo le nœud de soie verte. « Voici mon nœud de commandement. Prends-le. Il importe que personne encore ne sache mon nom, mais ce nœud suffit. La fleur de lys a été brodée par Madame Royale dans la prison du temple. » Almalo mit un genou en terre. Il reçut avec un tremblement le nœud fleur de lys et en approcha ses lèvres, puis s'arrêtant comme effrayé de ce baiser, « Le puis-je » demanda-t-il. « Oui, puisque tu baises le crucifix. » Almalo baisa la fleur de lys. « Relève-toi, » dit le vieillard. Almalo se releva et mit le nœud dans sa poitrine. Le vieillard poursuivit. « Écoute bien ceci. » Voici l'ordre. Insurgez-vous, pas de quartier. Donc, sur la lisière du bois de Saint-Aubin, tu feras l'appel. Tu le feras trois fois. À la troisième fois, tu verras un homme sortir de terre. D'un trou sous les arbres, je sais. Cet homme, c'est Planchenot, qu'on appelle aussi Cœur de Roi. Tu lui montreras ce nœud, il comprendra. Tu iras ensuite, par les chemins que tu inventeras, au bois d'Astillé. Tu y trouveras un homme cagneux qui est surnommé Mousqueton et qui ne fait miséricorde à personne. Tu lui diras que je l'aime et qu'il mette en branle ses paroisses. Tu iras ensuite au bois de Couébon qui est à une lieue de Plohermel. Tu feras l'appel de la chouette. Un homme sortira d'un trou. C'est Monsieur Thuot, sénéchal de Plohermel, qui a été de ce qu'on appelle l'Assemblée constituante, mais du bon côté. Tu lui diras d'armer le château de Couébon qui est au marquis de Guer, émigré. Ravin, petit bois, terrain inégal, bon endroit. Monsieur Thuot est un homme droit et d'esprit. Tu iras ensuite à Saint-Ouen-les-Toits et tu parleras à Jean Chouan qui est à mes yeux le vrai chef. Tu iras ensuite au bois de Villanglose. Tu y verras Guiter, qu'on appelle Saint-Martin. Tu lui diras d'avoir l'œil sur un certain Courménil qui est gendre du vieux Goupil de Préfelne et qui mène la jacobinière d'Argentan. Retiens bien tout. Je n'écris rien parce qu'il ne faut rien écrire. La roirie a écrit une liste, cela a tout perdu.
Almalo, maître à manœuvrer la barque et à aller dans les forêts sans se tromper, est un paysan du domaine même de Lantenac, là où se situe le château de la Tourgue, qui sera le théâtre de l'événement essentiel du roman. Et il se passe là quelque chose d'extraordinaire. Il se trouve qu'Almalo va connaître un secret du château de la Tourgue que le seigneur du lieu lui-même ne connaissait pas. C'est un passage secret qui part dans le donjon. Le paysan a donc sur son maître un empire inattendu quand on voyait la brutalité du langage du maître, étrange et complexe dialectique du maître et de l'esclave, où il semble bien que l'humanité et la secrète indépendance de l'un et de l'autre soient préservées. On perçoit entre eux une complicité qui a de quoi surprendre et révolter, on l'a vu en commençant, les républicains, mais qui est pourtant un fait. Or ce fait, Hugo essaye de le décrire à sa manière, en peignant cet inexplicable paysan breton. S'il est assez aliéné, comme on dit, pour servir son curé, son seigneur et son roi, c'est que c'est une bête. Le mot est dit par Hugo. Mais là encore, que de mystère dans cette bête.
La Vendée est un prodige. Cette guerre des ignorants, si stupide et si splendide, abominable et magnifique, a désolé et enorgueilli la France. La Vendée est une plaie qui est une gloire. À de certaines heures, la société humaine a ses énigmes. Énigmes qui, pour les sages, se résolvent en lumière et pour les ignorants, en obscurité, en violence et en barbarie. Le philosophe hésite à accuser. Il tient compte du trouble que produisent les problèmes. Les problèmes ne passent point sans jeter au-dessous d'eux une ombre. Comme les nuages. Si l'on veut comprendre la Vendée, qu'on se figure cet antagonisme. D'un côté, la Révolution française, de l'autre, le paysan breton. En face de ces événements incomparables, menace immense de tous les bienfaits à la fois, accès de colère de la civilisation, excès du progrès furieux, amélioration démesurée et inintelligible, qu'on place ce sauvage grave et singulier, cet homme à l'œil clair et aux longs cheveux, vivant de lait et de châtaigne, borné à son toit de chaume, à sa haie et à son fossé, distinguant chaque hameau du voisinage au son de la cloche, ne se servant de l'eau que pour boire, ayant sur le dos une veste de cuir avec des arabesques de soie, inculte et brodé, tatouant ses habits comme ses ancêtres, les Celtes, avaient tatoué leur visage, respectant son maître dans son bourreau, parlant une langue morte, ce qui est faire habiter une tombe à sa pensée, piquant ses bœufs, aiguisant sa faux, sarclant son blé noir, pétrissant sa galette de sarrasin, vénérant sa charrue d'abord, sa grand-mère ensuite, croyant à la Sainte Vierge et à la Dame Blanche, dévot à l'autel et aussi à la haute pierre mystérieuse debout au milieu de la lande, laboureur dans la plaine, pêcheur sur la côte, braconnier dans le hallier, aimant ses rois, ses seigneurs, ses prêtres, ses poux. Pensif, immobile souvent des heures entières sur la grande grève déserte, sombre écouteur de la mer. Et qu'on se demande si cet aveugle pouvait accepter cette clarté.
Victor Hugo écrit alors, dans cette suite de 93, des pages admirables sur la vie de ces hommes qui sont donc des bêtes à certains égards, mais ont à d'autres égards cette faculté de méditation, d'écoute au merveilleux où se résume sans doute l'humanité des hommes. Leur vie, elle se passe, nous dit-il, c'est curieux, en partie sous terre. Et pourquoi ? Parce qu'ils s'y cachent, poursuivis par la terreur. Et pourquoi ? Parce qu'il s'est toujours trouvé quelqu'un, dit Hugo, au long de l'histoire, pour menacer les Bretons. Ce qu'étaient les forêts bretonnes, dit-il, on se le figurerait difficilement, c'était des villes. Rien de plus sourd, de plus muet et de plus sauvage que ces inextricables enchevêtrements d'épines et de branchages. Ces vastes broussailles étaient des gîtes d'immobilité et de silence. Pas de solitude d'apparence plus morte et plus sépulcrale, mais si l'on eût pu, subitement et d'un seul coup pareil à l'éclair, couper les arbres, on eut brusquement...
C'est ce monde de la sauvagerie, de la nature, que Hugo comprend en profondeur, c'est le cas de le dire. Ces taupes, presque aveugles comme les taupes. Le mot taupe était d'ailleurs tout à fait extraordinaire, puisque on sait peut-être ou on ne sait pas que le trou des taupes s'appelle un donjon. Ce qui, dans cette histoire, qui aura pour lieu central un donjon, précisément la tourgue, est assez remarquable. Ces mœurs de taupe, enfin, ce sont aussi les mœurs de Telmarc, du vieux mendiant qui vit en dehors de la civilisation. Et ils sont ces hommes sous terre en dehors de la civilisation. Au fond, ils sont plutôt dans cette histoire, aux yeux de Hugo, des victimes. Et là, je retrouve quand même un aspect politique de la chose, mais politique et poétique. Ils sont des victimes, et leur aventure a quelque chose qui est quand même héroïque, qui est quand même profondément humain dans la folie de l'humain. Et puis, bon, il faudrait se placer au niveau des choses, enfin, cette description du chouan venant du fond des âges avec ses tatouages presque, avec sa veste de poils de bête, enfin...
C'est... Oui, le paysan est une des bêtes du paysage.
C'est ça. D'ailleurs, il y a cette page étonnante où Hugo commence par dire... la Vendée, c'est une révolte contre la civilisation, et puis il dit, il faut se représenter cet homme, ce sauvage grave et singulier, le Vendéen, pensif, immobile, souvent des heures entières sur la grande grève déserte, sombre écouteur de la mer. Et puis, après tout, c'est aussi de ce peuple qu'il sort, de ce peuple paysan, lorrain d'un côté et breton de l'autre par sa mère.
Chateaubriand aussi était breton.
Chateaubriand, mais alors plutôt du côté de Nantlac. Tandis que Hugo se sent, je crois, du côté du paysan. Il y a une espèce de fraternité là qu'il ne peut pas rompre. En dessous de ce que Hugo explicite, il y a ce que dit son roman et les textes qui l'environnent à l'époque où il l'écrit. Il y a sa réflexion sur la commune et l'opposition entre la commune et Versailles. On peut se demander où est la commune et où est Versailles dans la guerre civile, enfin, si on les reporte sur la guerre de Vendée. Je veux dire... À ce moment-là, les Versaillais, en 71, c'est apparemment clair, ils sont la réaction devant la Révolution. Mais non, on sait bien que pour Hugo, c'est pas si clair, puisqu'ils n'approuvent pas la Commune.
Les armées républicaines vont détruire non seulement le camp politique de la chouannerie, mais à terme la vieille civilisation rurale, en même temps que féodale, et cela, sans doute, les paysans le pressentent-ils.
Est-ce qu'ils ne pressentaient pas ce que l'on... peut dire aujourd'hui avec excès parfois, mais une certaine justesse, que quelque chose a été progressivement détruit, des cultures du merveilleux, des croyances où un lien de l'homme avec la nature se perpétuait. La jouissance poétique de Hugo a énuméré tant les forêts que les bois, et d'ailleurs il est assez beau qu'il y ait cette hiérarchie, je trouve, des forêts seigneuriales et des bois, c'est assez mythique, mais c'est très beau comme mythe, et des bois paysans, des bois du peuple, ou alors il n'y a plus que des chefs, et alors on trouve une autre sorte d'énumération, enfin les deux se mêlent, de noms, qui sont les surnoms, plus ou moins connus, et toujours extraordinairement parlant de ces êtres humains qui avaient des allures de bêtes, le chouan, la chouette, ou le croque-loup, enfin, c'est le nom d'un bois, mais ça n'est pas seulement, cependant, un monde catholique qui est évoqué, mais en dessous, un monde celtique, un monde plus ancien encore. Je crois que c'est la forêt des romans de chevalerie qui est vivante.
Les forêts, dans la géographie visionnaire de Hugo, deviennent presque des personnages, et des personnages maléfiques, puisqu'ils s'opposent aux lumières irrésistibles de la Révolution française. Personnages aux entrailles doublement profondes, d'abord on est enfoui sous les feuillages, puis sous les feuillages il y a encore les grottes. C'est là que se réfugie depuis tous les temps le Breton pour chasser. Tour à tour, dit Hugo, les troglodytes pour échapper aux Celtes, les Celtes pour échapper aux Romains, les Bretons pour échapper aux Normands, les Huguenots pour échapper aux Catholiques, les contrebandiers pour échapper aux Gabelous, s'étaient réfugiés d'abord dans les forêts, puis sous la terre. ressource des bêtes. C'est là que la tyrannie réduit les nations. Depuis 2000 ans, le despotisme sous toutes ses espèces, la conquête, la féodalité, le fanatisme, le fisc, traquer cette misérable Bretagne est perdue, sorte de battue inexorable qui ne cessait sous une forme que pour recommencer sous l'autre. Les hommes se terraient. L'épouvante, qui est une sorte de colère, poursuit Hugo, était toute prête dans les âmes, et les tanières étaient toutes prêtes dans les bois quand la République française éclata. La Bretagne se révolta, se trouvant opprimée par cette délivrance de force, méprise habituelle aux esclaves. Les tragiques forêts bretonnes reprirent leur vieux rôle et furent servantes et complices de cette rébellion, comme elles l'avaient été de toutes les autres.
Il y avait alors en Bretagne sept forêts horribles. Les sept forêts noires de Bretagne étaient la forêt de Fougères, qui barre le passage entre Dol et Avranches, la forêt de Princé, qui a 8 lieues de Tours, la forêt de Pimpon, pleine de ravines et de ruisseaux, presque inaccessible du côté de Baignon, avec une retraite facile sur Concornet, qui était un bourg royaliste, la forêt de Rennes, d'où l'on entendait le tocsin des paroisses républicaines, toujours nombreuses près des villes, c'est là que puisait Perdis Focard, la forêt de Machecoul, qui avait Charette pour bête fauve, la forêt de Garnache, qui était au La Trémoille, au Gauvin et au Rohan, la forêt de Brosséliande, qui était au Fée.
Voici parvenu au point où Victor Hugo cesse de raconter l'histoire de 93 et s'arrête comme en un point d'orgue sur un débat qui se situe au cœur de l'histoire et peut-être au-delà de l'histoire. Pour ce débat, il a créé deux personnages dont il dit qu'ils ne font qu'un, l'un ayant reçu la moitié lumineuse d'une seule âme, l'autre sa moitié sombre. Le premier personnage est Gauvin, jeune commandant en chef de l'armée républicaine en Bretagne, qui mène la guerre d'une main de maître, remportant bataille sur bataille. C'est un militaire et, on va le voir, un chevalier. C'est d'ailleurs un aristocrate rallié à la République, et c'est même le propre cousin du marquis de Lantenac, le chef de la rébellion royaliste. L'autre personnage est Simourdin, qui fut jadis le précepteur de Gauvin, ancien prêtre, devenu doctrinaire de la Révolution, et ici représentant de la Convention auprès de l'armée de Bretagne. C'est donc l'homme politique, le premier responsable politique, surveillant le premier responsable militaire. Et voici que Hugo les fait dialoguer. Dans ce dialogue qui nous conduit de l'histoire à ce que j'appellerai avec Henri Corbin la méta-histoire, Hugo met en scène le combat des ténèbres et de la lumière, car, dit-il, l'amitié était entre les deux hommes, mais la haine était entre les deux principes.
« Où en sommes-nous ?» Gauvin répondit, « Vous le savez aussi bien que moi. J'ai dispersé les bandes de Lantenac. Il n'a plus avec lui que quelques hommes, le voilà acculé à la forêt de Fougères. » Dans 8 jours, il sera cerné. Et dans 15 jours, il sera pris. Et pris, vous avez vu mon affiche? Oui? Eh bien, il sera fusillé. Encore de la clémence. Il faut qu'il soit guillotiné. Moi, dit Gauvin, je suis pour la mort militaire. Et moi, répliqua Simourdin, pour la mort révolutionnaire. Il regarda Gauvin en face et lui dit « Pourquoi as-tu fait mettre en liberté ces religieuses du couvent de Saint-Marc-le-Blanc ?»« Je ne fais pas la guerre aux femmes, » répondit Gauvin. « Ces femmes-là haïssent le peuple, et pour la haine, une femme vaut 10 hommes. Pourquoi as-tu refusé d'envoyer au tribunal révolutionnaire tout ce troupeau de vieux prêtres fanatiques pris à Louvigné ?»« Je ne fais pas la guerre aux vieillards. Un vieux prêtre est pire qu'un jeune. La rébellion et plus dangereuse prêchée par les cheveux blancs. On a foi dans les rides. Pas de fausse pitié, Gauvin. Les régicides sont les libérateurs. Et l'œil fixé sur la tour du temple.
La tour du temple. J'en ferai sortir le dauphin. Je ne fais pas la guerre aux enfants.
L'œil de Simourdin devint sévère. Gauvin, sache qu'il faut faire la guerre à la femme quand elle se nomme Marie-Antoinette, au vieillard quand il se nomme Piscis, pape, et à l'enfant quand il se nomme Louis Capet.
Mon maître, je ne suis pas un homme politique.
Tâche de ne pas être un homme dangereux. Pourquoi, à l'attaque du poste de Cossé, quand le rebelle Jean Treton, acculé et perdu, s'est rué seul, le sabre au poing contre toute ta colonne, as-tu crié « Ouvrez les rangs, laissez passer !»
Parce qu'on ne se met pas à 1500 pour tuer un homme.
Pourquoi, à la caillerie d'Astillé, quand tu as vu que tes soldats allaient tuer le Vendéen Joseph Béziers qui était blessé et qui se traînait, as-tu crié « Allez en avant, j'en fais mon affaire !» Et as-tu tiré ton coup de pistolet en l'air?
Parce qu'on ne tue pas un homme à terre.
Et tu as eu tort. Tous deux sont aujourd'hui chefs de bande. Joseph Béziers, c'est Moustache. Et Jean Treton, c'est Jambes d'Argent.
En sauvant ces deux hommes, tu as donné deux ennemis à la République. Certes, je voudrais lui faire des amis et non lui donner des ennemis.
Pourquoi, après ta victoire de l'Andéan, n'as-tu pas fait fusiller tes 300 paysans prisonniers?
Parce que, Bonchamp ayant fait grâce aux prisonniers républicains, j'ai voulu qu'il fût dit que la République faisait grâce aux prisonniers royalistes.
Et Simourdin sont définis comme les deux parties, les deux moitiés d'une seule âme, et que tous les deux sont des rayons. Mais Simourdin est un rayon noir et Gauvin est un rayon blanc. De là leur opposition, de là leur unité aussi.
Est-ce que c'est un hasard si Gauvin, le rayon blanc, est aussi un aristocrate?
Oui, je ne sais pas si...
Il a gardé tout le lustre de l'ancienne civilisation, tout en tranchant et en se consacrant à la nouvelle.
C'est ça. Alors, en effet, il est très vrai qu'ici, il y a quelque chose qui, après tout, est assez souple dans le fonctionnement, si je puis dire, du personnage Gauvin, parce que c'est un officier républicain, et puis c'est un officier, en vérité, d'Ancien Régime. C'est le neveu de Lantenac. Il a été formé comme militaire sous l'Ancien Régime. Et il est assez frappant de voir ici qu'il oppose la mort militaire à la mort révolutionnaire qu'exige Simourdin. Être fusillé lui paraît digne de Lantenac, mais pas être guillotiné. Gauvin accepte le mot clémence dont lui fait un reproche Simourdin. Au fond, ce qu'il voudrait, c'est incorporer à l'action révolutionnaire qu'il veut violente, quelque chose d'autre que la violence qui la métamorphose et qui corresponde à sa fin, enfin incorporer la fin dans le moyen.
Mais ce qu'il y a de...
Et dans la terreur, le contraire de la terreur. Quand Hugo fait dire à Gauvin, je veux dire en particulier, quand Hugo fait dire à Gauvin « Amnistie est pour moi le plus beau mot de la langue française », c'est aussi quelque chose qu'il articule en 1873, au moment où il combat sans répit pour l'amnistie des communards.
C'est une morale chevaleresque. Le fusil est l'arme de Gauvin qui répugne à la guillotine, mais ici le fusil est l'équivalent symbolique de l'épée. Or, que signifie morale chevaleresque, si le terme doit jamais avoir signifié quelque chose ? Cela veut dire que la guerre n'est pas sans loi, que la violence n'est pas désespérément sans limite. Cela veut dire que l'embellissement et l'accomplissement de l'âme sont des fins plus précieuses que la réussite de la guerre, la réalisation des ambitions ou le déroulement d'une logique sociale. Autrement dit, que les fins politiques ne justifient pas tous les moyens, puisque la politique elle-même est un moyen au service d'une finalité extérieure à la politique. Naturellement, dire cela, c'est sortir de l'histoire, de même que la Bretagne de Hugo est sans cesse à la limite de la géographie et son discours à la limite du récit.
Je voudrais quand même citer ce que Hugo en dit. Marat, il est sans pareil dans l'histoire. Il le dit dans un brouillon de 93. Rien ne lui ressemble et il ne ressemble à personne. Marat est un cas de tératologie historique. Marat est un être inouï, disproportionné, invraisemblable, qui même après qu'on a constaté qu'il est réel, semble impossible. Il vit de haine et il en meurt. Est-ce un tyran ? Non. Il n'a pas eu le pouvoir. Est-ce un bourreau ? Non. Il a rêvé l'échafaud, il ne l'a pas dressé. Est-ce un brigand ? Non. Il est seul, pauvre, et il ne répand que de l'encre. Qu'est-ce donc ? C'est un problème. C'est le martyr de ce qu'il éprouve et de ce qu'il inspire. C'est un despote qui est opprimé, c'est un médecin qui est malade, c'est un tourmenteur qui est torturé, c'est un assassin qui est assassiné. On guillotine Charlotte Corday. Et l'on dit Marat est mort. Non, Marat n'est pas mort. Mettez-le au Panthéon, jetez-le à l'égout, qu'importe. Il renaît le lendemain. Il renaît dans l'homme qui n'a pas de travail, dans la femme qui n'a pas de pain, dans la fille qui se prostitue, dans l'enfant qui n'apprend pas à lire. Il renaît dans les greniers de Rouen, il renaît dans les caves de Lille. Il renaît dans le grenier sans feu, dans le grabat sans couverture, dans le chômage, dans le prolétariat, dans le lupanard, dans le bagne, dans vos codes sans pitié, dans vos écoles sans horizon. Et il se reforme de tout ce qui est l'ignorance, et il se recompose de tout ce qui est la nuit. Alors, que la société humaine y prenne garde, on ne tuera Marat qu'en tuant la misère. Charlotte Corday n'a rien fait. Tant qu'il y aura des misérables, il y aura sur l'horizon un nuage qui peut devenir un fantôme, et un fantôme qui peut devenir Marat.
Mais c'est quand même l'indication d'une tendance très métaphysique, finalement, de Victor Hugo, et j'entends métaphysique au sens le plus plein du terme, pas au sens justement d'une doctrine, c'est que tout ce roman, toutes les pages que nous avons déjà entendues et celles que nous entendrons ensuite, nous montrent une pensée non pas hésitante au sens impuissant du terme,
écartelée plutôt,
mais écartelée et perpétuellement écartelée. Alors même que Hugo est placé au confluent de discours tous plus sûrs d'eux les uns que les autres.
Ça c'est vrai.
Et tous plus doctrinaires les uns que les autres. Et alors, s'il y a de la métaphysique au sens, justement, au sens d'un débat jamais terminé et qui s'exprime par des images qui se succèdent les unes les autres, c'est bien en ce que Marat, le doctrinaire par excellence, l'homme sans pitié à certains égards, et celui qui va justement endoctriner Simourdin qui guette Gauvin, eh bien, s'il y a le mal sous forme de Marat, c'est parce qu'il y a d'abord du mal sous forme
de souffrance.
De souffrance et d'injustice.
C'est ça.
Et alors, il y a une espèce de circulation du mal à travers les consciences humaines qui sont déchirées entre la décision généreuse de lutter contre le mal et celle de lui céder. Et finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que le combat des ténèbres et de la lumière est ici placé, alors même que l'on parle de l'histoire sans cesse, est ici placé manifestement à un autre plan que celui de l'histoire.
Oui, il est placé à l'intérieur de la conscience humaine, d'une façon permanente.
Trois enfants recueillis jadis par le bataillon du Bonnet Rouge, nous les avions oubliés. Pourtant, leur histoire est parallèle à l'histoire principale. Maintenant, les deux histoires vont se rejoindre. Les royalistes, dans le hasard des batailles, ont anéanti le bataillon républicain. Ils ont tué la Vivandière et ils ont cru tuer Michel Fléchard. Et les enfants, ils les ont emmenés. Mais voici qu'à leur tour, avec le marquis de Lantenac, ils sont isolés et acculés dans le château de la Tourgue. Et dès lors, les trois enfants sont leurs otages. Ils vont menacer de faire brûler le château avec les trois enfants à l'intérieur si on ne les laisse sortir. Ce qu'ils ignorent, c'est que la mère des enfants, la Flécharde, n'a pas été tuée, en fait. Et depuis des semaines, elle est à la recherche de ses trois petits, marchant sans cesse, pathétiquement, à travers la campagne, pieds nus. Sur la foi d'indications vagues, elle arrive au château de la Tourgue, juste au moment où, l'ultimatum ayant expiré, Lantenac quitte le château par une porte secrète et donne l'ordre de mettre le feu. Écoutons le récit de Hugo, d'une intensité rare, avec toutes les ressources de la plus grande littérature.
C'est en cet instant-là que Michel Fléchard arriva au bord du plateau. Elle aperçut à ses pieds un ravin dont le fond se perdait dans une blême épaisseur de nuit. À quelque distance, sur le haut du plateau, un enchevêtrement de roues, de talus et d'embrasures qui était une batterie de canons. Et devant elle, confusément éclairée par les mèches allumées de la batterie, un énorme édifice qui semblait bâti avec des ténèbres plus noires que toutes les autres ténèbres qui l'entouraient. Subitement, elle ne vit plus rien. Un voile de fumée venait de monter entre elle et ce qu'elle regardait. Une âcre cuisson lui fit fermer les yeux. À peine avait-elle clos les paupières qu'elles s'empourprèrent et devinrent lumineuses. Elle les rouvrit. Ce n'était plus la nuit qu'elle avait devant elle, c'était le jour. Mais une espèce de jour funeste, le jour qui sort du feu. Elle avait sous les yeux un commencement d'incendie. La fumée de noir était devenue écarlate et une grande flamme était dedans. Cette flamme apparaissait puis disparaissait avec ces torsions farouches qu'ont les éclairs et les serpents. Cette flamme sortait comme une langue de quelque chose qui ressemblait à une gueule et qui était une fenêtre pleine de feu. Cette fenêtre, grillée de barreaux de fer déjà rouges, était une des croisées de l'étage inférieur du château construit sur le pont. De tout l'édifice, on n'apercevait que cette fenêtre. La fumée couvrait tout, même le plateau, et l'on ne distinguait que le bord du ravin noir sur la flamme vermeille. Michel Fléchard, étonné, regardait. La fumée est nuage, le nuage est rêve. Elle ne savait plus ce qu'elle voyait. Devait-elle fuir? Devait-elle rester? Elle se sentait presque hors du réel. Un souffle de vent passa et fendit le rideau de fumée, et dans la déchirure, la tragique Bastille, soudainement démasquée, se dressa, visible tout entière, donjon, pont, châtelet, éblouissante, horrible, avec la magnifique dorure de l'incendie réverbérée sur elle de haut en bas. Michel Fléchard put tout voir dans la netteté sinistre du feu. L'étage inférieur du château bâti sur le pont brûlait. Au-dessus, on distinguait les deux autres étages encore intacts, mais comme portés par une corbeille de flammes. Du rebord du plateau où était Michel Fléchard, on en voyait vaguement l'intérieur à travers des interpositions de feu et de fumée. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. Par les fenêtres du second étage, qui étaient très grandes, Michel Fléchard apercevait le long des murs des armoires qui lui semblaient pleines de livres. Et devant une des croisées, à terre, dans la pénombre, un petit groupe confus. Quelque chose qui avait l'aspect indistinct et amoncelé d'un nid ou d'une couvée et qui lui faisait l'effet de remuer par moments. Elle regardait cela. Qu'était-ce que ce petit groupe d'ombre? À de certains instants, il lui venait à l'esprit que cela ressemblait à des formes vivantes. Elle avait la fièvre, elle n'avait pas mangé depuis le matin, elle avait marché sans relâche, elle était exténuée, elle se sentait dans une sorte d'hallucination dont elle se défiait instinctivement. Pourtant, ses yeux, de plus en plus fixes, ne pouvaient se détacher de cet obscur entassement d'objets quelconques, inanimé probablement et en apparence inerte, qui gisait là sur le parquet de cette salle superposée à l'incendie. Tout à coup, le feu, comme s'il avait une volonté, allongea d'en bas un de ses jets vers le grand lierre mort qui couvrait précisément cette façade que Michel Fléchard regardait. On eût dit que la flamme venait de découvrir ce réseau de branches sèches. Une étincelle s'en empara avidement et se mit à monter le long des sarments avec l'agilité affreuse des traînées de poudre. En un clin d'œil, la flamme atteignit le second étage. Alors, d'en haut, elle éclaira l'intérieur du premier. Une vive lueur mit subitement en relief trois petits êtres endormis. C'était un tas charmant, bras et jambes mêlés, paupières fermées, blonde tête souriante. La mère reconnut ses enfants. Elle jeta un cri effrayant. Ce cri de l'inexprimable angoisse n'est donné qu'aux mères. Rien n'est plus farouche et rien n'est plus touchant. Quand une femme le jette, on croit entendre une louve. Quand une louve le pousse, on croit entendre une femme. Ce cri de Michel Fléchard fut un hurlement. Hécube aboya, dit Homère. C'était ce cri que le marquis de Lantenac venait d'entendre. On a vu qu'il s'était arrêté. Le marquis était entre l'issue du passage par où Almalo l'avait fait échapper et le ravin. À travers les broussailles entrecroisées sur lui, il vit le pont en flammes, la tourgue rouge de la réverbération, et par l'écartement de deux branches, il aperçut au-dessus de sa tête, de l'autre côté, sur le rebord du plateau, vis-à-vis du château brûlant et dans le plein jour de l'incendie, une figure hagarde et lamentable, une femme penchée sur le ravin. C'était de cette femme qu'était venu ce cri. Cette figure, ce n'était plus Michel Fléchard, c'était Gorgone. Les misérables sont les formidables. La paysanne s'était transfigurée en Euménide. Cette villageoise quelconque, vulgaire, ignorante, inconsciente, venait de prendre brusquement les proportions épiques du désespoir. Les grandes douleurs sont une dilatation gigantesque de l'âme. Cette mère, c'était la maternité. Tout ce qui résume l'humanité est surhumain. Elle se dressait là, au bord de ce ravin, devant cet embrasement, devant ce crime, comme une puissance sépulcrale. Elle avait le cri de la bête et le geste de la déesse. Sa face, d'où tombaient des imprécations, semblait un masque de flamboiement. Rien de souverain comme l'éclair de ses yeux noyés de larmes. Son regard foudroyait l'incendie. Le marquis écoutait. Cela tombait sur sa tête. Il entendait on ne sait quoi d'inarticulé et de déchirant, plutôt des sanglots que des paroles.
« Ah, mon Dieu, mes enfants, ce sont mes enfants !» Au secours, au feu, au feu, au feu! Mais vous êtes donc des bandits! Est-ce qu'il n'y a personne là? Mais mes enfants vont brûler! Ah, voilà une chose! Georgette, mes enfants, Gros Alain, René Jean! Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qui donc a mis mes enfants là? Ils dorment! Je suis folle! C'est une chose impossible! Au secours!
Tourgue devant elle, n'est-elle pas aussi d'ailleurs une figure de mère qui contient ses enfants pour peut-être une nouvelle naissance? C'est comme dans un ventre qu'ils sont là dans ce grenier, dans cette bibliothèque plutôt, où tout un épisode nous les a montrés antérieurement jouant. S'émerveillant et le plus joyeusement du monde, massacrant un livre. un très beau livre. Il y a cette montée qui est évidemment comme une marche à la croix. Et il est assez étonnant que la place du Christ soit tenue par une femme, comme s'il y avait un calvaire, véritablement un calvaire de la mère et une nouvelle mère, rédemption de l'humanité.
Oui,
là,
toute mère qui perd ses enfants connaît une souffrance égale à celle du Christ.
Comment en parler ? Il a bien fallu, nous l'avions vu à propos de Léopoldine, que Hugo se sente dans une partie de lui-même mère pour à ce point crier avec Michel Fléchard. Peut-être Hugo veut-il réparer obscurément une certaine horreur de la figure maternelle que la psychanalyse peut nous montrer chez lui. Et alors si on voit le côté bestial sur lequel on a beaucoup insisté, je veux dire, des commentateurs de 93 ont pu insister sur le côté femelle, n'est-ce pas, de Michel Fléchard, qu'il ne faudrait pas que cela masque cet autre aspect où les misérables sont les formidables. La paysanne s'était transfigurée en Euménide. Ce mot transfiguré me paraît un mot-clé à repérer dans l'œuvre de Hugo. La transfiguration, c'est au sens propre le moment où le Christ apparaît dans toute sa lumière sur la montagne à certains de ses apôtres. Et là, c'est le rayonnement qui va devenir foudroiement, enfin, de la mer au milieu de ce monde d'hommes. Car enfin, ce qui est étonnant, c'est que là, à nouveau, c'est au milieu d'un monde d'hommes qui combattent, de vire, le vire au sens latin du terme, enfin, de viri et d'hommes illustres, que survient la gorgone, c'est-à-dire, enfin quand même, la femme monstrueuse, la femme épouvantable qui terrifie, mais d'un autre côté qui arrête la marche du héros.
Pour finir, nous entendrons un passage de la fin du roman de Victor Hugo, 93, où, une fois encore, le romancier a arrêté le roman pour faire place à un moment de pensée. Lantenac, entendant le cri de la Fléchard, a sauvé in extremis les enfants qui allaient périr par le feu, au lieu de s'enfuir comme il le pouvait. Action chevaleresque. Gauvin, voyant cette action, a décidé, comme un chevalier à son tour, de faire enfuir Lantenac, qui sans cela aurait été guillotiné. Mais puisqu'il est le commandant en chef, cela implique qu'il soit guillotiné à sa place, si Mourdin ne peut laisser bafouer l'autorité de la convention qu'il représente. Mais il se donnera lui-même, si Mourdin, la mort, lorsque la tête de Gauvin tombera sous le couperet de la guillotine. Action chevaleresque en chaîne, à la limite du vraisemblable, dans l'élément de la légende. C'est dans cette lumière de la légende, et encore une fois dans la lumière de l'art, de la littérature, et c'est la même lumière, qu'il faut entendre le dialogue des deux hommes.
Simourdin s'assit sur la paille à côté de Gauvin et lui dit « Je viens souper avec toi ». Gauvin rompit le pain noir et le lui présenta. Simourdin en prit un morceau, puis Gauvin lui tendit la cruche d'eau. « Bois le premier, » dit Simourdin. Gauvin but et passa la cruche à Simourdin qui but après lui. Gauvin n'avait bu qu'une gorgée. Simourdin but à longs traits. Dans ce souper, Gauvin mangeait et Simourdin buvait, signe du calme de l'un et de la fièvre de l'autre. On ne sait quelle sérénité terrible était dans ce cachot. Ces deux hommes causaient. Gauvin disait « Les grandes choses s'ébauchent. Ce que la Révolution fait en ce moment est mystérieux. Derrière l'œuvre visible, il y a l'œuvre invisible. L'une cache l'autre. L'œuvre visible est farouche, l'œuvre invisible est sublime. En cet instant, je distingue tout très nettement, c'est étrange et beau. Il a bien fallu se servir des matériaux du passé, de là cet extraordinaire 93. » Sous un échafaudage de barbarie se construit un temple de civilisation. Oui, répondit Simourdin. De ce provisoire sortira le définitif.
Le définitif, c'est-à-dire le droit et le devoir parallèle. L'impôt proportionnel et progressif, le service militaire obligatoire, le nivellement, aucune déviation, et au-dessus de tous et de tout, cette ligne droite, la loi. La République de l'absolu. Je préfère, dit Gauvin, la République de l'idéal. Il s'interrompit puis continua. Oh, mon maître, dans tout ce que vous venez de dire, où placez-vous le dévouement, le sacrifice, l'abnégation, l'entrelacement magnanime des bienveillances, l'amour? Mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre tout en harmonie, c'est mieux. Au-dessus de la balance, il y a la lyre. Votre république dose, mesure et règle l'homme. La mienne l'emporte en plein azur. C'est la différence qu'il y a entre un théorème et un aigle.
Tu te perds dans le nuage.
Et vous dans le calcul.
Il y a du rêve dans l'harmonie.
Il y en a aussi dans l'algèbre.
Je voudrais l'homme fait par Euclide.
Et moi, dit Gauvin, je l'aimerais mieux fait par Homère. Le sourire sévère de Simourdin s'arrêta sur Gauvin comme pour tenir cette âme en arrêt.
Poésie, défie-toi des poètes.
Oui, je connais ce mot. Défie-toi des souffles, défie-toi des rayons, défie-toi des parfums, défie-toi des fleurs, défie-toi des constellations.
Rien de tout cela ne donne à manger.
Qu'en savez-vous? L'idée aussi est nourriture. Penser, c'est manger.
Pas d'abstraction. La République, c'est deux et deux font quatre. Quand j'ai donné à chacun ce qui lui revient...
Il vous reste à donner à chacun ce qui ne lui revient pas.
Qu'entends-tu par là?
J'entends l'immense concession réciproque que chacun doit à tous et que tous doivent à chacun et qui est toute la vie sociale.
La justice que défend Simourdin, c'est une justice... qui se définit par un ordre, par la fixité, par l'absolu d'un ordre immuable par conséquent, tandis que l'équité, ce serait une justice toujours idéale, toujours remise en question par son rapport à la réalité. C'est bien la justice, mais la justice en tant que le progrès humain y est asymptotique, ne peut faire que s'en rapprocher. Ce que croit Simourdin, c'est qu'il est possible d'établir une société parfaite.
À la fin du roman, donc, la guillotine se dresse. Simourdin l'avait fait venir exprès de très loin pour l'exécution de Lantenac. C'est Gauvin qui s'y couche, et Simourdin, au même instant, se tue d'un coup de fusil. C'est l'occasion pour Hugo d'écrire des pages lumineuses sur l'opposition inexplicable et indépassable de la méchanceté humaine et diabolique, à moins qu'elle soit divine, représentée par la guillotine, sinistre monument dressé près du château de la Tourgue, et la nature, merveilleusement douce, d'un très clair matin d'été. Ce matin-là, jamais le ciel frais du jour levant n'avait été plus charmant. Un vent tiède remuait les bruyères, les vapeurs rampaient mollement dans les branchages, la forêt de fougères, toute pénétrée de la laine qui sort des sources, fumait dans l'aube comme une vaste cassolette pleine d'encens. Le bleu du firmament, la blancheur des nuées, la claire transparence des eaux, la verdure, cette gamme harmonieuse qui va de l'aigle marine à l'émeraude, les groupes d'arbres fraternels, les nappes d'herbes, les plaines profondes, tout avait cette pureté qui est l'éternel conseil de la nature à l'homme. Au milieu de tout cela s'étalait l'affreuse impudeur humaine. Au milieu de tout cela apparaissaient la forteresse et l'échafaud, la guerre et le supplice, les deux figures de l'âge sanguinaire et de la minute sanglante. La chouette de la nuit du passé et la chauve-souris du crépuscule de l'avenir. En présence de la création fleurie, embaumée, aimante et charmante, le ciel splendide inondait d'aurore la tourgue et la guillotine, et semblait dire aux hommes « Regardez ce que je fais et ce que vous faites ». Tels sont les formidables usages que le soleil fait de sa lumière.
C'était le contexte historique du roman 93, le quatrième des cinq épisodes de la série Victor Hugo, Le combat des ténèbres, avec Yves Gohin et les voix de François Perrier et François Chaumette. Une émission diffusée la première fois le 28 mai 1979 sur France Culture.